Jacinthe Varel est avec nous en studio et va s'installer de façon permanente le matin à compter de lundi prochain, parce que lundi, tu seras avec Max et Reg, et par la suite, bien avec moi et Mathias pour la période estivale.
Oui.
As-tu hâte de relever ce défi-là?
J'ai très hâte. Ça va être une belle aventure. Franchement, je suis vraiment très contente de travailler avec vous tout l'été.
Ben
encore plus souvent qu'une fois par semaine. C'est fantastique.
Le matin, ça te fait pas trop peur?
Non.
Okay.
Non.
Parfait. Let's go. On y va, on fonce. J'aime ça. Jacinthe, le 7 septembre 2022, l'ex-PDG de la SAC, Denis Marcellet, avise le secrétaire général Yves Ouellet du dépassement des coûts dans le dossier Satellic. Monsieur Ouellet, as-tu gardé ça pour lui ou il en a parlé à François Legault?
Hey, le numéro un, le fonctionnaire numéro un, celui qui est le plus haut au niveau de la haute fonction publique.
C'est le Michael Sabia, là, autrement dit, du gouvernement fédéral. On a nommé Sabia la semaine dernière. C'est le même poste qu'Yves Ouellet occupe.
Hein? Exactement, exactement. Et tous les postes de haut fonctionnaire dans l'administration publique sont des postes qui sont tout d'abord nommés par le gouvernement.
Ouais. Hein?
Donc, déjà, la nomination est politique.
C'est clair.
Hein? On doit notre poste à ce gouvernement, notre nomination à ce gouvernement.
Donc, c'est quelque chose qui se passe pendant une campagne électorale. Ça se peut qu'on ne veuille pas trop le sortir.
Absolument. Donc, quand déjà des gens tentent de vouloir défendre le gouvernement actuel ou dire que, de toute façon, Yves Ouellet n'était pas un homme politique, mais plutôt le plus haut fonctionnaire de l'État, c'est pas tout à fait le cas. Oui, c'est le plus haut fonctionnaire de l'État, mais il reste que son rôle est très politique. D'ailleurs, tout le rôle des sous-ministres, sous-ministres adjoints, est très politique parce qu'ils doivent naviguer entre la machine, qu'on appelle dans le jargon, donc la machine, la fonction publique et le politique, les demandes du cabinet, les exigences, les attentes du cabinet. Et il faut se rappeler aussi que quand on est rendu à avoir un poste où notre nomination a été faite par le gouvernement, c'est aussi notre avenir de carrière là, qui est entre les mains du gouvernement. C'est quand prendra fin notre mandat ou s'il y a une fin de mandat ou s'il y a des...
Puis là, notre bon salaire, notre pension, notre tête, tout ça.
Absolument. Une nomination comme délégué général du Québec à Paris, faut travailler dans le sens de
là, il y a des beaux appartements, des beaux comptes de dépenses.
Ben oui.
Voyons donc.
Donc, c'est très politique, effectivement. Donc, c'est sûr que ça ne peut pas avoir été contenu qu'à son niveau. Là.
Puis est-ce que, justement, après ça, ça vient un peu rendre la commission d'enquête présentement sans dire inutile, parce qu'on apprend bien des affaires le fun, là, mais un petit peu moins utile parce que tout le monde ou presque a protégé quelqu'un puis va protéger quelqu'un. Fait que là, qui dit vrai, qui dit pas vrai, qui savait pas. C'est une commission d'enquête, comme je dis, on en apprend du stock le fun. Ben, le fun, on s'entend. Mais il y a des affaires qui vont rester cachées.
J'aime beaucoup ta question, Maxime, parce qu'elle m'ouvre grand la porte à dire « c'est une grosse joke, c'est une grosse mascarade, cette commission d'enquête-là ». Et j'ai l'impression de revivre la commission Charbonneau 2.0. Même affaire. On protège des gens, il y a des pertes de mémoire qui sont autorisées, il y a des témoins qui sont exemptés d'être assignés à témoigner à cette commission d'enquête-là. Finalement, c'est une belle grosse mascarade pour nous endormir les citoyens et vraiment, là... nous donner un beau show de boucan là, pour nous donner l'impression qu'on remue bien des affaires, on brasse bien des affaires, mais au bout du compte, les vrais responsables ne seront pas tenus imputables. Et déjà, quand il y a certains ministres qui sont exemptés d'aller témoigner, on a un problème, là.
Clairement.
Parce que l'argent, là, juste au niveau de l'argent qui a été... fragmenté. On a segmenté les montants qu'on devait allouer au projet pour essayer de passer, vous savez, là, le 222 millions qu'on a segmenté.
On a segmenté en trois pour qu'on puisse ne pas, pendant la campagne électorale, parler du dépassement de coûts.
Exactement. Bien, même si on a segmenté, là, le Conseil du Trésor, faut toujours bien qu'il donne l'argent.
Ben oui.
Et le Conseil du Trésor, c'est le ministère qui administre les fonds publics au sein de l'appareil étatique. C'est le Conseil du Trésor, à un moment donné, qui a été interpellé puis qui a dû... Et là, on va nous dire, il n'y a aucun ministre, on va nous dire que Sonia Lebel n'a pas été impliquée dans l'allocation des ressources de l'État au Conseil du Trésor. Mais là, on ne peut pas aller.
Ah oui.
On ne peut pas demander à Mme Lebel de témoigner. Et Mme Lebel, qui était à la commission Charbonneau, c'est du gros n'importe quoi. À un moment donné, ça n'a pas de bon sens.
Puis qu'Éric Kerr ou François Bonnardel ou Geneviève Guilbeault ne savent pas ça parce que c'est fragmenté puis ils ne posent pas de questions sur le budget.
Ouais.
Voyons donc. Est-ce que, justement, on a envoyé Denis Marcellet? T'sais, on l'a nommé, là, comme comme, comme PDG à l'Office là, de protection du consommateur. Là. Est-ce qu'on l'a envoyé là justement prendre les coups pour pas que ça rebondisse sur Geneviève Guilbeault, François Bonnardel, Éric Kerr ou Sonia Lebel cette semaine?
Absolument. Absolument.
C'est ça hein, que c'est
ben
passé?
Oui, absolument. C'est vraiment un gros exercice de relations publiques pour nous donner l'impression qu'on est en train de fouiller le dossier, qu'on est en train de faire quelque chose. Et c'est ce qui est le plus malheureux dans la politique. Et dans, ça, c'est un bel exemple, mais il y en a plusieurs. Des exemples en politique où on donne l'impression aux gens qu'on s'occupe de la situation, qu'on fait quelque chose, alors que dans les faits, quand on gratte...
Oui, parce que là, le commissaire Galland s'offusque. Ben là, ouais. Tout le monde dit, regardez qu'est-ce qu'on gratte. Mais dans le fond, on gratte pas à bonne place. Là. C'est juste que Marcellet, qui a été récompensé pour son incompétence à la SAC, mais qui était compétent pour le gouvernement parce qu'il a camouflé tout ce fiasco-là, on l'a mis à l'Office de protection puis on a dit, hey, gars, va passer pour le bouffon de service, pas grave, t'as ta pension, t'as ton poste, tout va bien, mon homme.
Je vais même aller plus loin. L'UPAC qui vient de débarquer là, au bureau de la Société d'assurance automobile du Québec, pourquoi l'UPAC débarque là maintenant? Là? Elle pouvait pas débarquer avant pour aller saisir des documents. Qu'est-ce qui se passe? Les documents qui avaient à être détruits, ça fait longtemps qu'ils ont pu être détruits. L'UPAC agit donc bien tardivement. Et ça aussi, il va falloir mettre la lumière là, sur l'utilité de l'UPAC. Et est-ce qu'on a mis sur pied l'unité permanente anticorruption pour aller chercher des dossiers individuels de pharmaciens qui ont donné des passeports vaccinaux où on a créé la commission, l'unité permanente anticorruption, pour justement démanteler les gros nœuds dans notre système.
Je suis tellement d'accord avec toi. T'sais, pourquoi l'UPAC n'a pas débarqué en même temps que la vérificatrice générale? T'sais, on a eu le temps d'entasser des dossiers et d'en mettre dans la déchiqueteuse.
Pas sûr qu'ils sont capables de partir une déchiqueteuse à sac. C'est peut-être ça qui nous sauve. Mais moi, on est capable de les retrouver.
C'est vrai qu'ils
ne
sont pas compétents. Fait que peut-être qu'ils ont de la misère avec ça aussi.
Mais
tout ça pour dire qu'il n'y a rien qui a changé, nous, à la SAC. On l'a appris là, de la bouche d'une vérificatrice cette semaine. Éric Ducharme gère ça comme Denis Marcellet, c'est-à-dire faut que rien sorte, faut que tout soit gardé à l'interne, puis il faut surtout pas qu'on sache que ça va coûter plus qu'1,1 milliard de dollars. Fait qu'Éric Ducharme, Denis Marcellet, c'est la même personne, c'est le même combat, c'est de protéger le gouvernement.
Protéger le gouvernement. Puis tu m'avais posé la question il y a 2 ou 3 semaines. Est-ce que tu penses qu'il faut vraiment mettre la SAC sous tutelle? Mm-hmm. J'avais dit à ce moment-là, je le sais pas trop encore.
Là, tu le sais plus.
Je suis ailleurs.
Mais même là, la tutelle, qui prendrait ça?
Enfin, je sais pas.
Ben non, c'est ça, parce que mais c'est vrai, ta ça question est bonne, parce que mon chef dérangé disait faut que ça soit François Legault en tant que premier ministre qui prenne la SAC sous son aile.
Ouais.
Mais je veux pas
ça?
De François Legault avec ce qu'on sait sur Yves Ouellet.
Effectivement. Ça serait un Moses de bon défi à donner aux partis d'opposition. Je regardais là, vous surveillez le dossier, particulièrement le Parti libéral qui fait une sacrée bonne job dans ce dossier-là. Moi, je m'assoirais avec eux et je dirais on fait quoi, là? Ça n'a aucun sens parce que c'est rire de nous autres, parce que c'est notre argent contribuable. On s'empêche de rénover des hôpitaux. On s'empêche de construire des écoles.
Les coupes en éducation sont dans le fiasco satellite.
Exactement. Absolument.
C'est les mêmes montants.
Absolument. Et si on additionne la colonne des gaffes, on a des beaux hôpitaux rénovés, on a des belles écoles
HMR
construites.
HMR est faite,
là.
Je pense.
Ben oui, absolument. Non. Là, c'est assez. On fait rire de nous. Puis de reproduire la commission Charbonneau 2.0, de nous montrer là, une grosse mascarade qui va finir avec à peu près rien, où on va sacrifier une ou deux têtes qui vont tomber, là, ceux qui sont moins connectés, ceux qui sont moins protégés. Parce que c'est ça l'affaire aussi, là. Cette commission d'enquête, est-ce qu'elle vise à faire tomber toutes les têtes impliquées, puis assurer que tout le monde qui était imputable soit imputable, ou on va sacrifier quelques personnes, quelques individus qui sont moins bien protégés, qui sont moins dans le clic, qui sont moins dans le clan. Parce que là, ça saute aux yeux qu'il y a de la protection, de la surprotection, de l'interprotection. Et il y a peut-être qu'on compte sur la mémoire courte des Québécois. Peut-être qu'on compte sur le fait aussi que les plus jeunes d'aujourd'hui n'ont pas suivi la commission Charbonneau. Puis on se dit, on est capable d'encore passer le même genre de mascarade. Mais moi, je vais vous le rappeler, là, je ne vais pas arrêter de parler de la commission Charbonneau 2.0. C'est assez...
C'est clair.
Les commissions d'enquête ne mènent qu'à ça, là, faire des gros shows boucanes puis des mascarades, cessons les commissions d'enquête, assurons-nous d'avoir des gens encore plus imputables, trouvons des processus, des procédés pour s'assurer que notre fonction publique, elle est réellement imputable, puis que les postes n'ont plus cette pression-là d'être soumis à cette faveur politique, parce que là, j'ai l'impression que le politique s'est vraiment imbriqué là, et a contaminé, s'est infiltré dans notre appareil public. Puis ça, c'est juste La SAC, c'est une société d'État parmi bien d'autres fonctions de l'État. Bien, alors, qu'est-ce qui se passe dans les dossiers d'informatisation dans le réseau de la santé?
Dans le réseau de la santé, ce matin, on parle justement, c'est en la une de la presse, du fiasco de la transformation du paiement en numérique au niveau de l'ARTM pour le métro de Montréal. Déjà en dépassement de coûts de 143 millions de dollars, donc on n'a pas fini avec ça. On parle avec Jacinthe Varel, on parlait de notre chroniqueuse politique, on parlait du fiasco, ça clique. Hey, tu viens de parler des libéraux, la décision de Pablo Rodriguez de mettre Marois Risky comme chef parlementaire, c'est un bon choix?
Ben oui, absolument. Ça va être
passionnant. Elle va brosser la cabane, hein? Surtout qu'elle n'a plus rien à perdre, elle s'en va.
Oui, tous les mordus de politique ont hâte à l'automne parce que, franchement, la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale va être vraiment passionnante parce que Marois Risky, c'est une ou sinon la meilleure débatteuse, mais c'est franchement une débatteuse très, très féroce à l'Assemblée nationale, ultra compétente, ultra performante aussi.
Puis elle va revenir, tu sais, là, elle quitte la... On s'entend, elle va revenir dans une couple d'années.
Oh, ben oui, quand les enfants vont être plus vieux.
Elle va devenir chef du Parti libéral, ou peut-être qu'elle va aller à l'échelle fédérale, on verra bien à ce moment-là, là, mais un jour, Marois Risky va revenir en politique, puis va avoir un rôle plus important que ce qu'elle a présentement. Là.
Ah oui, elle est première ministrable, absolument.
Clairement.
Donc, on va s'amuser énormément à l'automne. Elle va vraiment brasser le gouvernement, puis de toute façon, c'est le travail des oppositions de brasser le gouvernement, peu importe c'est qui est au pouvoir. Là. Alors, je suis pas en train de me réjouir. Il n'y a
non,
rien
non.
de partisan dans ce que je dis, dans le sens où...
De toute façon, il y a des affaires à brasser avec la CAQ.
Ben, oui, absolument. Mais j'aime ça de voir qu'on a des oppositions qui font leur travail, puis faire son travail, bien, c'est vraiment assurer avec rigueur chacun des dossiers, puis mettre la lumière sur ce qui ne va pas. Puis le Parti libéral le fait bien, mais avec Marois Risky, ça risque d'être très intéressant.
Arthabasca, 42% ouais. PQ, 41% Parti conservateur. Ça va jouer sur une coupe de vote.
Si le tableau des candidats restent tels quels. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui se réjouissent ou qui se désolent là, de ces chiffres-là. Ils sont impressionnants. 42% pour le PQ dans le dernier sondage dans Arthabasca. 41% pour le Parti conservateur. Mais ça, c'est en tenant compte que le Parti libéral, en ce moment, n'a pas nommé de candidat.
En effet.
Là, le Parti libéral, en ce moment, obtient 9% des intentions de vote sans candidat.
Mais les libéraux vont aller bouffer dans le Parti conservateur, pas dans le PQ. Je me trompe-tu?
Ben, je sais pas comment ça va se dessiner, mais moi, je m'enflamme pas trop avec ce sondage-là parce que c'est en prenant pour acquis qu'il y a pas de candidat au Parti libéral et pas de candidat non plus avec la Coalition Avenir Québec qui s'en sort de façon désastreuse avec un 3% d'intention de vote.
Hey, j'ai révisé ma prédiction à la baisse.
Ben oui,
il va y avoir 2-3 députés de la CAQ.
Je pense à toi souvent. Il y a 2-3 semaines, 4 semaines, Jeff, tu me disais la CAQ va manger toute une débarque, 7-8 députés. J'ai dit, ben non, là, t'exagères. Mais depuis ce temps-là, les chiffres te donnent raison, mais oui. Non, mais franchement, dans Arthabasca, il y a 3% d'intention de vote pour la Coalition Avenir Québec. J'ai la misère à croire à ça. Moi, je me dis, si tu me sondes et il n'y a pas de candidat en ce moment, je ne dirais pas que je voterais pour un parti qui n'a même pas de candidat.
C'est un bon point.
J'ai l'impression que c'est quand même un peu biaisé en ce moment. Ouais. On n'est même pas en campagne. La partielle n'est pas déclenchée. Là, on est tous dans la partielle déjà dans nos têtes, là, dans nos esprits, mais elle n'est pas actuellement déclenchée.
Autant Arthabasca que en général, j'ai de la misère à croire que la CAQ va rester aussi dans le trouble. C'est quoi la stratégie à prendre pour François Legault? On présente un troisième lien en se disant c'est le projet que le monde veut. On présente pas le projet que le monde veut. Fait que là, on se tire dans le pied à Québec avec le projet qui était supposé nous faire gagner à Québec. On fait des coupes en éducation qui n'ont pas de maudit bon sens. On continue à s'embourber dans sa clique. Y a-tu quelque chose à faire? Tu sais, là, il y a l'immigration qui va peut-être être le cheval de bataille en se disant, mais en même temps, immigration, le Parti québécois peut offrir des affaires bien semblables, même que la CAQ copie un peu ce que... Qu'est-ce qu'on va faire?
La CAQ devrait retrouver son essence primaire.
L'économie.
Pourquoi la Coalition Avenir Québec s'est formée? C'était quoi sa vision du Québec?
C'était l'économie.
Se rebrancher là-dessus, là, c'est sa seule façon de regagner du terrain puis de regagner le cœur de certains électeurs.
Mais c'est dur de faire
possible,
ça concrètement. T'sais, l'économie,
non.
C'est large.
Ouais. Ben moi, je dis...
Tu le ferais comment?
Je vais vous expliquer. que la CAQ retourne vers ses candidats qui sont restés branchés sur ces valeurs-là. Je pense à un Simon-Jolin Barrette, par exemple, mm-hmm. qui incarne absolument le centre droit de la CAQ en 2018.
Moi, je veux que ce soit le prochain chef. Là.
Absolument. Donc, si la Coalition Avenir Québec, par exemple, plaçait Simon-Jolin Barrette à la tête comme chef du parti, là, je pense, Simon-Jolin Barrette a toujours resté proche de ses valeurs de centre droit. Il est toujours resté cohérent dans ses politiques. On s'est jamais dit, voyons, on est en train... Qu'est-ce qui se passe avec lui? On le reconnaît. Plus.
Donc, ça prend un changement de chef.
Ça prend un changement de chef, absolument. Et ça prend se rebrancher sur les valeurs initiales de la Coalition Avenir Québec. Sinon, ben, c'est la perte. Mais il reste que je dis qu'ils ne vont pas prendre une si grande débarque qu'on le prédit parce que les déboires du Parti libéral du Canada nous ont tous démontré que malgré qu'un premier ministre du Canada puisse doubler la dette canadienne, la dette fédérale, en 10 ans, donc avoir le même niveau d'endettement que l'ensemble de tous les premiers ministres du Canada combinés ensemble, additionnés. Et malgré tout, ils sont encore au pouvoir, ce beau parti-là, le Parti libéral du Canada. Alors je me dis, il restera toujours des gens pour voter selon des valeurs plus... plus axé sur les derniers instants.
Je termine là-dessus. Je me trompe-tu, par exemple, le Parti libéral du Canada, il y a un noyau fort qui va toujours voter pour eux autres, peu importe. Je prends l'expression, ils ont les bobettes rouges. La CAQ, il n'y a pas ce noyau fort-là, vu que c'est un jeune parti qui émane d'une coalition plein de gens qui étaient déçus d'autres partis.
Bien, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça, mais j'ai l'impression que la CAQ a quand même réussi à cristalliser une certaine portion du vote. Mm-hmm. J'ai quand même l'impression qu'il y a la CAQ a réussi à avoir un noyau. Oui, on l'a vu parce que, justement, dans la gestion désastreuse, par exemple, de la pandémie, on pardonnait énormément...
C'est un bon point.
On pardonnait énormément de choses au gouvernement actuel en disant « on n'aurait pas fait mieux, personne n'aurait fait mieux ». Donc, ça, là, moi, ça m'indiquait déjà que il y a déjà un noyau qui est en train de se former, mm-hmm. un noyau dur. Mais là, on va voir en 2026, ce noyau dur-là, à quel point il est gros ou petit.
C'est ça, exactement. On verra le pourcentage. Jacinthe Varel, merci beaucoup. Je le répète, tu seras sur les ondes de Boulevard 101 pour l'été en entier la semaine prochaine avec Max et Reg. Et par la suite, on se fait un trio, moi, toi, Mathias, pour la période estivale. Bien hâte de travailler avec toi chaque jour.
Ça va être un plaisir.
Yes! Merci beaucoup. Il est exactement 7h42 minutes après la pause. Isabelle Demers, chef de Lévis Force 10, candidate à la mairie de Lévis pour le parti présentement mené par le maire Gilles Lehaulier, sera avec nous en studio. On va parler notamment de SRB. On a-tu entendu ce mot-là cette semaine à Québec?
Ça fait 10 ans qu'on l'entend, là, mais oui, cette semaine particulièrement.
Mais cette semaine particulièrement, mais on va parler de ça également pour la rive sud de Lévis. Restez les nôtres, vous êtes à l'antenne de Boulevard 101 à Rage Against le matin.